De bouche à oreille, de jour comme de nuit, racontez à la veillée ou au village des histoires. Sur tous les continents, de génération en génération, dites puis écrites, traduites, des histoires de métamorphose, métamorphosées au point de s'interroger, qui dit vrai ? Démêler le vrai du faux, retrouver l'origine, les tours et détours de ce que l'on appelle la littérature orale, tel est le sujet du nouveau numéro de la revue d'anthropologie Gradiva, publié par le musée du Quai Branly et coordonné par Éléonore Devevé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître assistante à l'Université de Genève, au département de langue et de littérature française moderne. Et avec Irène Alberts, vous avez donc imaginé ce numéro 38, créé en son temps, donc numéro 38 de la revue Gradiva, revue créée en son temps en 86 par Michel Léry. Et ce qui est passionnant, c'est que vous vous intéressez non pas aux objets, statues, masques qui ont été apportés en Europe, parfois spoliés, mais aux paroles, aux histoires, car je l'ai découvert avec cette revue et grâce à vous, il y a eu des collectes aussi d'histoires, donc de ce matériau immatériel.
Oui, tout à fait. Le point de départ en fait, de ce numéro, c'est l'idée que les chercheurs en études littéraires pouvaient eux aussi se poser des questions qui animent aujourd'hui le monde des musées, c'est-à-dire des questions qui ont trait à la provenance de leurs collections. Vous savez qu'aujourd'hui, depuis plusieurs décennies déjà, mais plus particulièrement au cours des dernières années, il y a eu un questionnement de fond sur l'origine des collections quand elles ont été collectées dans des contextes coloniaux. Et donc, un mouvement d'enquête de provenance, c'est-à-dire de recherche précise à la fois sur les conditions d'acquisition de ces objets, sur les chaînes de transmission qui les ont amenés jusqu'à nous, et selon les conclusions, sur l'éventualité de leur restitution. Donc, nous, ce questionnement qui se pose sur des biens matériels, on a éprouvé la nécessité de se le poser sur les biens immatériels, que sont les textes, et plus particulièrement, effectivement, ce qu'on appelle la littérature orale.
Et donc, ça a commencé quand ? À la fin du 19e siècle, tout le monde s'y est mis, aussi bien les missionnaires que les ethnologues. Ils ont été chercher des histoires, collecter des histoires.
Oui, alors en Europe, c'est même un mouvement un peu antérieur qui date plutôt du XVIIIe siècle, mais en contexte colonial, c'est au XIXe siècle que ça commence, avec tout le travail des missionnaires, des administrateurs coloniaux et des ethnographes qui peu à peu vont constituer un immense corpus, en fait, en transcrivant des propos recueillis.
Mais alors, est-ce que ce sont des collectes en parallèle ou des collectes ciblées ? Par exemple, si on prend la grande mission Dakar Djibouti de 1931 menée par Marcel Griol avec justement Michel Léris, est-ce que la littérature orale, lors de cette mission, était prioritaire ?
Alors, elle n'était pas prioritaire, mais elle était présente. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête que souvent les collectes ethnographiques ont été de plusieurs ordres en même temps. Il y avait à la fois des collectes d'objets matériels et des collectes de savoir, des collectes linguistiques aussi pour établir des lexiques, pour établir des grammaires. Donc c'était très souvent des gestes pluridisciplinaires.
Donc il y a eu une chasse aux comptes. D'ailleurs, je crois que l'expression est dans cette revue, dans votre revue, Éléonore Devevé. Cela veut dire que les comptes ont été collectés, enregistrés parfois, traduits, transcrits. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont été dénaturés ?
Alors là, c'est d'emblée une vaste question, une question d'interprétation. Et notre démarche, nous, ça a été plutôt de retarder ce type de jugement, c'est-à-dire d'établir autant que possible des faits sur ces chaînes d'action. Dénaturer, est-ce que le passage de l'oral à l'écrit est une dénaturation ? Est-ce qu'une traduction est une dénaturation ? Je pense que c'est des questions qui restent ouvertes, des questions immenses, en fait.
Ce sont des questions immenses, mais quand même, il y a la patte du colon. Dans les contes que l'on nous vend, par exemple les contes africains, il ne faut pas croire à l'authenticité absolue de ces contes et de ces histoires.
Effectivement, très souvent, on peut estimer qu'il y a une part peut-être d'adultération, c'est-à-dire des inflexions qui s'opèrent aussi, des informations qui vont parfois être erronées, des énoncés qui vont être mal compris, donc mal transcrits. Donc effectivement, il y a parfois tout des phénomènes de glissement et de perte dans ces démarches-là.
Alors ça concerne l'Afrique, beaucoup d'auditeurs de RFI vivent en Afrique, mais il faut le dire que ça ne concerne pas que l'Afrique, ça concerne aussi les Indiens d'Amérique ou même les paysans bretons, parce qu'il y a eu à la même période des collectes d'arts verbaux, enfin sur les arts verbaux chez les paysans bretons, et ils ont eu le même processus de collecte, traduction, passage à l'écrit.
Oui, tout à fait. C'est, ce mouvement de collecte, on peut le rattacher à la figure de Herder, ce philosophe allemand qui a promu cette idée que les littératures orales exprimaient l'âme des peuples, hein, des identités collectives. Et l'exemple type, c'est la collecte des frères Grimm. Mais effectivement, en Bretagne et dans d'autres régions de France et d'Europe, ces gestes ont aussi été très fréquents.
Alors, les arts verbaux ou les oratures, comme vous les nommez, c'est un joli mot, les oratures, est-ce que c'est un butin de guerre, si l'on parle, si on revient à la colonisation? On oublie les paysans bretons.
Alors, cette idée de butin de guerre, c'était le titre, en fait, d'une exposition qui a été organisée par Irène Albers et ses étudiants à la Bibliothèque philologique de l'Université de Berlin. Cette exposition se posait précisément cette question: peut-on considérer la littérature comme un butin colonial? Et l'exposition détaillait effectivement tous les gestes qu'on a commencé d'évoquer, voilà, collecter, transcrire, anonymiser. Mais c'était aussi une formule provocatrice, hein, qui cherchait à attirer l'attention. Je pense que notre propos n'est pas de dénoncer massivement ce type de transfert, mais plutôt de cibler des cas où effectivement une violence symbolique, des falsifications, comme on le disait, ont pu s'opérer.
Alors nous reviendrons sur cette question de la circulation des histoires et sur les différentes formes d'appropriation. Mais d'abord, on va vérifier s'il y a un fou dans la voiture avec le groupe Terre Noire, ces deux frangins de Saint-Étienne.
Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, et il tient le volant, il tourne à droite dur. C'est pas de la maladresse, ça se voit que c'est pas de la maladresse. Et c'est le mal, est-ce que c'est le mal? C'est le mal, est-ce que c'est le mal ça? C'est le mal, ouais, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal ça? C'est pas de la maladresse. Dubaï n'est pas le paradis. Les stars ne sont pas sympathiques. Pas besoin de tout le temps paradis. L'enfer n'est pas le paradis. Où est le paradis? Casino gagne toujours à la fin. Les puissants veulent garder tout ce qu'ils ont. On se fait manger par des images. T'as pas besoin de la doudoune Prada. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, c'est pas de la maladresse. Ça se voit que c'est pas de la maladresse. Est-ce que c'est le mal? Est-ce que c'est le mal ça? Oui, c'est le mal ça. Est-ce que c'est le mal? Oui, c'est le mal. Est-ce que c'est le mal ça? Oui, c'est le mal ça. Est-ce que c'est le mal? Le mal, le mal, le mal, le mal, hein? Le mal, hein? Est-ce que c'est le mal? Le mal, le mal, le mal, le mal, hein? Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, maman très à droite. Et un fou au volant de la voiture, il tourne à droite, il tourne à droite dur. Et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite dur. Maman, et un fou dans la voiture, il tient le volant, il tourne à droite dur.
Terre Noire sur RFI avec ce titre extrait de leur deuxième album qui s'appellera Protéger au masculin.e. L'écriture inclusive et le point médian s'invitent en musique. Et la musique est importante aussi dans les oratures dont nous parlons aujourd'hui avec Éléonore de Vevey à l'occasion de la sortie d'un nouveau numéro de la revue d'anthropologie Gradiva intitulé Paroles spoliées, itinéraire de la littérature orale. Numéro où il ne s'agit pas de dénoncer, comme vous nous l'avez dit, Éléonore de Vevey, mais plutôt de comprendre le chemin parcouru par les histoires, les contes ou les proverbes, ce passage finalement des arts verbaux autochtones à une culture lettrée occidentale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des degrés d'adultération, comme vous le dites, ou de forgerie dans cette appropriation en fait.
Oui, tout à fait. À chaque fois qu'un écrivain européen s'intéresse à ce type de texte, ou se l'approprie, l'emprunte, il en modifie en fait certains paramètres et lui injecte des nouveaux éléments de sens. Donc on dit qu'il le resémantise. À chaque reprise en fait produit un énoncé nouveau qui a une forme mais aussi une fonction différente.
Donc ça c'est de la réécriture littéraire en fait.
Oui. Mais une réécriture,
vous êtes embarrassée, Marose.
Réécriture dans laquelle il faudrait aussi mettre en évidence les rapports de domination qui peuvent aussi s'immiscer en fait dans ce type de pratique.
Alors il y a ces réécritures littéraires ou ces appropriations aussi des inventions, des faux. Il y a des faux. Vous nous racontez dans cette revue Gradiva qu'il y a des exemples de faux. Et notamment, vous consacrez un article au Walam Olum, qui est un texte, alors je le dis au présent, affirmatif, qui est un texte écrit en pictogramme attribué à une tribu indienne, les Napes, et qui raconte l'arrivée des colons blancs. Sauf que, on va écouter un de ces chants.
All now summer there and mine, all con and some wing there are mine, all con and some wing there mine there. Con, all are now summer there and mine, all con and some wing there are mine. All con and some wing there, mine there.
Chant extrait du Walam Olum que vous étudiez, Éléonore de Vevey, dans ce numéro de Gradiva. Mais c'est comme le Canada Dry, ça a le goût, le son, la couleur d'un chant traditionnel. Mais je vous laisse nous raconter la suite.
Oui, alors en fait, ce n'est pas un extrait du Walam Olum, c'est un chant navarro qui est interprété par Jérôme Rothenberg. Jérôme Rothenberg, en fait, qui est la figure qui a inspiré le volume Partition Rouge, qui m'intéresse, moi, dans cet article, un volume qui est une anthologie, en fait, de chants et poèmes des Indiens d'Amérique du Nord, comme le dit son sous-titre, un volume qui a été composé par Jacques Roubaud et Florence Delay. Et tous deux se sont inspirés de la démarche de Jérôme Rothenberg. Donc, ils évoquent ce chant navarro en fait dans l'introduction de ce volume, et ils racontent à quel point ils ont été sidérés par cette expérience d'écoute, cette expérience de découverte en fait de la façon dont Jérôme Rothenberg, poète américain blanc, avait fait ce travail d'exhumation de chants collectés par des ethnographes américains du début du XXe siècle et comment il avait cherché à les retraduire et à les réinterpréter. Et c'est ce que Roubaud et Delay, à leur façon, ont fait aussi dans ce volume.
Mais sauf que ce volume, ce manuscrit écrit soi-disant par les Lenapes est un faux. Alors, a été inventé complètement par un naturaliste du fin 18e, début 19e.
Oui, alors le Walam Olum, effectivement, c'est le manuscrit qui donne son titre à Partition Rouge. Delay et Roubaud traduisent Walam Olum par Partition Rouge. Mais effectivement, un chercheur a montré dans les années 90 que ce document était une forgerie, un document que Samuel Constantin Rafinesque, donc effectivement un botaniste du 19e siècle, avait forgé. C'est-à-dire qu'il l'avait fait passer pour un manuscrit lenapé, alors qu'il en était l'auteur, un auteur informé qui évidemment était au courant précisément de la langue des Lenapés, de leur culture, mais qui avait créé de toutes pièces en fait ce manuscrit.
Donc ce manuscrit est un faux total, mais a donné lieu à de nombreuses traductions en anglais, mais aussi en français, jusqu'à celle donc de 88 par Jacques Roubaud, poète de l'Oulipo, qui vient de oui. disparaître, et Florence Delay, qui est une imminente académicienne. Alors, autre exemple qui est décortiqué dans votre revue, Éléonore de Vevey, c'est un chant maori, le Totowaka.
Totowaka. Katangi te kiwi, kiwi. Katangi te moho, moho. Ketangi te tike, ketangi te tike, tike. He poko anahe, to tikoko tikoko. Haere te hara, tikoko.
Chant maori ou poème dada?
Alors, c'est toute la question. Et c'est en fait l'objet du très bel article de Stéphane Chaveux.
Dans la revue Gradiva.
Dans la revue, c'est ça. Qui s'intéresse à ce texte iconique, hein, qui est un peu souvent présenté comme le poème sonore type. Et c'est d'ailleurs l'image qui figure sur la couverture du numéro. C'est un texte qu'il a présenté, qu'il a fait passer pour un poème de son pur inventé par lui. Hein, c'est son expression. Mais qui est en fait un chant en langue maori.
Lui, Tristan Tzara, l'inventeur du mouvement dada, enfin on peut dire ça rapidement, après la Première Guerre mondiale.
Oui, c'est ça. Le texte paraît d'abord dans le Dada Almana en 1920, sans nom d'auteur et avec la mention de la langue maori. Mais peu à peu, les informations vont se perdre et le texte va être attribué à Tzara et la mention de la langue maori va disparaître. Et c'est pour cette raison qu'il va le présenter comme qu'on va le recevoir comme un exemple de poème sonore.
Mais alors, comment vous avez retrouvé la trace de l'origine des premières versions? C'est en travaillant avec des Maoris, justement?
Alors, il y a toute une strate d'étapes. D'abord, il y a des chercheurs, et notamment Henri Béard, qui ont travaillé sur l'œuvre de Tzara, ont exhumé une première source qui est en fait un livre théorique d'un anthropologue allemand qui s'appelle Karl Bücher et qui avait fait une réflexion sur le rythme et le travail, Arbeit und Rhythmus, c'était le titre de son livre, qui lui-même en fait était allé puiser dans la monographie d'un ethnographe anglais qui lui avait collecté en fait ce chant dont la destination était, dont la fonction était d'accompagner, si vous voulez, la traction de troncs d'arbres de la forêt à la côte où ils allaient servir de canoë. Mais donc ça c'est la façon dont Stéphane Chaveux a retracé effectivement la provenance de ce texte. Mais pour comprendre la signification culturelle et la valeur culturelle qu'il a dans la culture maori et encore aujourd'hui, il a sollicité un chercheur spécialiste des Maori Studies et qui l'a renseigné en fait sur la signification précise de ce texte en corrigeant certains aspects. Du texte lui-même et aussi du sens qu'il faut lui donner.
Mais est-ce qu'on peut parler ou est-ce qu'on doit parler de vol dans un cas comme celui-là? Parce que Tzara, en même temps, a fait beaucoup pour faire connaître ses cultures, ses sonorités, ses histoires, non?
C'est toute la difficulté, en fait, de peser, de sous-peser ce qui relève d'un travail de mise en valeur de ces textes, donc de reconnaissance de leur puissance esthétique aussi, mais d'autre part, la question de la part d'auteur qu'il faudrait reconnaître aussi au créateur et que Tzara a laissé de côté.
Mais on peut aussi plaider au nom de l'universalisme à la libre circulation des histoires.
Oui, et
c'est d'ailleurs un bien collectif.
Oui, tout à fait. Ça, c'est un débat qui s'est cristallisé aussi au Canada dans les années 90 autour des prises de position successives d'une militante qui s'appelle Léonore Kishik-Tobias et qui s'insurgeait contre le vol des histoires, tandis que Alberto Manguel, qui lui avait répondu dans cette controverse, lui était plutôt partisan de cette position universaliste, mais qui a évidemment ses limites parce qu'elle néglige le fait que dans certaines cultures, la circulation des histoires est protégée par un droit. Donc la propriété est pensée sur un régime différent de la façon dont on le pense en Europe.
En tout cas, la question est ouverte, même si dans cette revue, vous ne tranchez pas, et ce n'est pas l'objet des universitaires que de trancher pour ou contre. Se pose en revanche la question de la restitution. Alors, cela commence pour les biens matériels, et on a assisté ces dernières années, notamment à la restitution au Bénin de 26 œuvres constituant le trésor du Dahomey. Ça a donné lieu aussi à un film de Mathie Diop, qui s'appelle Dahomey, avec cette question assez intéressante. Si on parle de littérature orale, c'est comment donner voix à ces œuvres muettes.
filmer ses œuvres, c'était leur rendre leur histoire, leur rendre une voix, leur permettre de redevenir actrices, narratrices de leur propre épopée, en l'occurrence de leur retour en pays natal. À l'origine, je trouvais bien plus fort que ces œuvres ne disent rien. Ce que j'avais envie de renvoyer aux spectateurs, c'est justement leur subjectivité, leur silence. Et pendant un certain temps, le film a duré comme ça, muet, 15 minutes, et c'était assez fort, jusqu'à ce que je trouve quand même que les mots sont devenus quand même nécessaires pour contextualiser une histoire et un contexte politique aussi. Donc c'est à la fin du montage que j'ai fait intervenir Mackenzie Hursall. C'était très important pour moi que ce soit une écrivaine ou un écrivain haïtien qui écrive ce texte. Parce que je pense qu'on écrit aussi avec son histoire et que ça me semblait impensable que quelqu'un qui ne soit pas en lien avec cette histoire-là raconte cette histoire, incarne cette voix.
Incarner, donner une voix, c'est important aussi. Redonner la voix aux auteurs en matière de littérature orale. Éléonore de Vévé, dans le cas des Averbaux, comment faire pour les restituer? Comment se pose cette question de la restitution?
Alors, elle se pose très clairement différemment de la façon dont on l'aborde pour les objets, parce que on ne déplace pas un objet comme on déplace un poème, donc on ne restitue pas un poème comme on restituera un objet. Il faut donc inventer des formes un petit peu différentes qui passent d'abord par le souci de rendre disponibles ces matériaux, mais qui passent aussi par des formes de recherche collaborative et même aussi des formes de recherche-création où, par exemple, certains enregistrements, et ça c'est quelque chose que les ethnomusicologues font depuis plusieurs années, voire décennies, accompagnent des artistes ou mettent ces matériaux à disposition d'artistes locaux pour qu'ils les reperforment ou qu'ils se le réapproprient d'une façon contemporaine qui leur redonne d'autres sens.
Oui, et puis rappeler quelle est la culture d'origine, quel est l'auteur original, même si la question du droit d'auteur ne se pose pas du tout de la même manière dans ces cultures africaines anciennes ou aujourd'hui en Europe.
Oui, en tout cas, c'est une façon souvent d'accompagner des démarches de réappropriation ou, comme le dit Vincent Debanne, un des contributeurs du numéro, d'opérer des réappropriations d'appropriation. Donc d'inverser un petit peu la vapeur, si vous voulez.
Et rendre à César ce qui est à César, pour utiliser une formule assez populaire. Alors, dans les biens immatériaux, il y a les contes, il y a les légendes, mais il y a aussi les proverbes, les expressions populaires. Et ça, c'est le truc de Lucie Bouteloup, ou plutôt, c'est la puce.
La puce à l'oreille. Bonjour
Lucie.
Bonjour Pascal.
Cette année, vous avez décidé d'envoyer du bois, comme vous nous l'avez dit la semaine dernière. Est-ce que ça commence bien?
Plutôt, pourvu que ça parte pas en capilotade.
Capilotade.
Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, justement, capilotade?
Capillaire, les cheveux.
Oh, attention, je crois que vous avez besoin d'une petite puce pour vous mettre à jour. Et ça tombe bien, puisque dans un instant, on va retrouver Géraldine Moinard, qui est lexicographe aux éditions du Robert. Mais avant, vous le savez, Pascal, pas de puce sans...
Les enfants.
Partir en capilotade, c'est par exemple dans une classe, au début tous les élèves ils sont sages et tout à coup il y a tout le monde qui sont en train de crier, se jeter, faire n'importe quoi.
Partir en capilotade, ça me fait penser à partir en cacahuète. Ça veut dire que tout le monde fait n'importe quoi, que personne ne reçoit toutes les règles.
Moi, ça me fait penser à partir en vacances avec un engin très bizarre.
Capilotade, ça me fait penser à un copilote.
Du coup, bah, je pense que c'est, par exemple, je vais partir en vacances avec quelqu'un qui m'accompagne.
Capilotade, c'est par exemple, la maîtresse nous a vus chez elle et on a un dîner. Et un moment, elle part aux toilettes et nous, on se croit dans un zoo, on jette les assiettes et on jette tout.
La puce à l'oreille.
Bonjour Géraldine Moinard.
Bonjour Lucie Bouteloup.
Alors, une réaction aux propositions des enfants, ils ont été inspirés, hein?
Ah, ils ont été très inspirés, ils ont beaucoup d'imagination. Et puis, on sent un petit peu le vécu, tout le monde fait n'importe quoi dans la classe.
En tout cas, ils sont dans le vrai, même s'ils ne connaissent pas ce mot capilotade.
Oui, ils sont pas très loin du vrai.
Qu'est-ce que ça veut dire, alors, partir en capilotade?
Bon, partir en capilotade, c'est être en piteux état, en miettes.
C'est quelque chose qui partirait en des confitures qui seraient donc en mauvais
mauvais état.
Voilà, quelque chose qui tombe un peu en ruine. Alors au sens un peu figuré, puisqu'on peut avoir une partie du corps qui souffre, comme avoir, on peut avoir le dos ou le cerveau en capillotade.
Qu'est-ce que c'est la capillotade, Géraldine ?
Alors la capillotade, à l'origine au XVIe siècle, c'est un ragoût qui est fait avec les restes de viande, donc des restes en petits morceaux, qui va donner ensuite ce sens figuré de partir en capillotade.
Et ce sens figuré, alors, il arrive quand ?
Il arrive assez vite, dès le XVIIe siècle. On a déjà un premier sens figuré de capillotade. On le trouve, par exemple, dans le dictionnaire de Furtière, en 1690. C'est très rigolo. On dit figurément qu'on a mis quelqu'un en capillotade quand on a beaucoup médit de lui, qu'on a déchiré et mis en pièces sa réputation. Donc vraiment, cette idée de mettre en pièces au sens moral, et puis petit à petit va apparaître le sens de mettre en pièces et être en piteux état, quel que soit le sujet.
Donc, on part en capillotade, on met en capillotade, on est en capillotade, il y a tout un tas de verbes qu'on peut utiliser autour de ce mot de capillotade. Il y a une autre expression, comme le disait un petit garçon, qui ressemble à partir en capillotade, qui est partir en cacahuète et qui a le même sens. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre comme synonyme ?
Alors, on pourrait trouver beaucoup de synonymes qui se restent dans cette idée de déstructuration, quelque chose qui est écrasé, qui est haché en petits morceaux, comme être en bouillie, en charpie, en compote.
On a compris en tout cas que c'était quelque chose qui se délitait, quoi.
Tout à fait.
Alors, évidemment, Géraldine, on est en France, donc la gastronomie inspire. Et il y a d'autres expressions qui viennent tout droit de nos cuisines. Je pense par exemple à être soupe au lait. Quand on parle de quelqu'un qui a un mauvais caractère, qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre ?
On pourrait dire qu'on est dans la sauce, quand on n'est pas dans une très bonne position.
On est mi-figue, mi-raisin, quand on est mitigé.
Voilà, qu'on hésite. On roule dans la farine.
Ah, quand on essaye de duper quelqu'un.
Voilà.
On est le dindon de la farce. Quand,
quand on se fait avoir.
Quand on se fait avoir. On peut aussi dire à quelqu'un, mêle-toi de tes oignons, quand il se mêle de quelque chose qui ne le regarde pas.
Oui, alors il faut faire un petit peu attention avec se mêler de ses oignons, parce que là, ça vient d'un sens argotique, où oignon signifie l'anus.
Ah, donc ça n'a rien à voir avec la cuisine. Merci Géraldine Moinard pour toutes ces explications aux petits oignons. Évidemment, je pense aux légumes. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent retrouver cette puce ainsi que toutes les précédentes sur le site françaisfacile.rfi. Mais aussi sur le blog du Robert, Dis-moi Robert. À très bientôt Géraldine, autour d'une nouvelle expression.
Merci, Lucie, merci à vous. Éléonore de Vevey, les expressions populaires font partie des arts verbaux, selon l'intitulé que vous utilisez dans cette revue Gradiva, des cultures orales. Vous parlez d'orature, pourquoi ça veut dire quoi de plus ou de moins orature ?
Le terme d'orature, il a été forgé, il est maintenant largement employé pour corriger les biais eurocentrés et même graphocentrés, donc centrés sur l'écriture, que charrie la notion de littérature orale. Au départ, cette notion, au XIXe siècle, elle sert à mettre en valeur, en fait, ces patrimoines oraux, mais elle implique aussi de les penser dans les grilles de notre conception de ce qu'est la création verbale. Cette notion d'orature, qui a surtout été promue par l'écrivain kényan Ngugi wa Thiong'o, elle cherche à corriger ce biais et donc à mettre en évidence ce pendant oral à la littérature.
Mais la littérature fait partie des oratures ?
Non, c'est plutôt deux types de création verbale, deux types d'art de la parole.
Merci beaucoup Éléonore de Vevey. Le numéro 38 de la revue Gradiva est édité par le musée du Quai Branly Jacques Chirac sous le titre Paroles spoliées, itinéraire de la littérature orale, et il y a plein de récits et de contributions tout à fait passionnantes. On a parlé des Maoris ou on a parlé des chants indiens, mais il vous intéressait aussi aux contes créoles de la Martinique ou aux contes Ronga. Donc c'est vraiment un numéro à conserver et à lire. Merci beaucoup de vive voix Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Laura Pinto à la réalisation. Vous pouvez bien sûr réécouter cette émission sur le site de RFI.fr, mais aussi en podcast sur l'application Pure Radio. C'est gratuit, c'est facile et vous pouvez vous abonner. À demain.